bouquin sur la politique d'Aristote, 21 décembre 1983, Saint-Joseph.
Alors pour commencer, on va faire une introduction générale. C'est le premier séminaire sur la politique d'Aristote. Étant donné que le premier livre est assez vaste et qu'il y a beaucoup de choses à dire, on a marqué le plan du livre de la politique d'Aristote et je ne le commenterai pas. Vous l'avez sous les yeux, comme ça nous permettra d'avancer. Alors tout d'abord, des remarques générales fondamentales, toujours. Pour comprendre Aristote, il faut regarder toujours Platon en ligne de fond. D'autre part, il faudra qu'on se pose dans notre introduction la question de savoir si la distinction éthique et politique telle qu'on l'entend aujourd'hui est bien d'Aristote, et puis comprendre chez Aristote les rapports entre éthique et politique. Alors tout d'abord, on va regarder Aristote par rapport à Platon. Alors, ce qu'on nous a dit déjà au dernier séminaire, c'est que Aristote a été séduit par la manière dont Platon orientait la vue humaine vers la contemplation. Alors il y aura une similitude entre Aristote et Platon au niveau de la finalité de l'homme, c'est-à-dire la théoria. Cependant, Aristote va réagir violemment contre les idées de Platon. Il cherchera une alliance des sensations et de l'intelligence. Bon. Alors donc, s'ils se rejoignent au niveau de la finalité, dès qu'on regarde le comment, c'est-à-dire les moyens arrivés à la théoria, dire tout le problème de l'éducation qui est fondamental, Aristote et Platon se séparent. Alors, pour Platon, le moyen d'arriver à la théoria, là je vais vite parce qu'on connaît hein, tout ça. Pour arriver à la théoria, pour Platon, c'est la réminiscence, c'est les idées, par l'intériorité. Pour Aristote, on part de l'expérience. Alors, ensuite, le problème de la politique chez Aristote et chez Platon. Alors la politique chez Platon, on a vu, dernier séminaire, que c'est la théoria qui doit conduire à la politique. Platon dit que le véritable homme politique, c'est le philosophe. Donc je ne reviens pas là-dessus, on l'a vu le dernier séminaire. C'est tout le mythe de la caverne. Alors pour Aristote, la politique n'est pas du tout vue dans une vision de sagesse contemplative. Mais c'est à partir de l'expérience. Alors c'est là qu'on retrouve cette distinction philosophie pratique et philosophie spéculative. Alors, en comprenant bien que les deux partent de l'expérience, mais il n'y a pas de passage et de lien de nécessité directe entre la philosophie spéculative et la philosophie pratique. Chacune de ces deux parties ont des principes propres. Alors ça, c'est important par rapport à Platon. Donc la philopratique a ses principes propres, de même que la philosophie spéculative. Alors, il faudra qu'on se demande pendant ce séminaire si la politique d'Aristote a des principes propres. Bon, ensuite, on va regarder chez Aristote, alors on quitte Platon, et on va regarder les liens entre éthique et politique chez Aristote. Alors ça aussi c'est important. Tout d'abord, bien comprendre la perspective d'Aristote. Pour Aristote, il y a une philosophie humaine, et qu'il appelle politique. C'est tout ce qu'on a vu avec frère Benoît au sujet de l'éthique. Donc, une philosophie humaine qu'on appelle politique. Pour Aristote, en effet, c'est dans une communauté que s'éveille le sens moral. C'est-à-dire, dans une éthique communautaire, va émerger une éthique personnelle. Vous voyez bien la perspective, c'est pas tout de suite la distinction philosophie éthique, philosophie politique. Il n'y a pas de séparation entre les deux pour Aristote. Alors comment il va les distinguer? C'est au début de l'éthique qu'on s'en aperçoit, quand Aristote, pour commencer sa philosophie humaine, se pose la question de connaître ce pourquoi l'homme est fait, c'est-à-dire le point de vue du bonheur. Or, Aristote s'aperçoit que le bonheur, ça fait appel à quelque chose qui est propre à l'homme, c'est-à-dire le point de vue de l'intelligence et le point de vue de la volonté. Alors, étant donné que ça fait appel à ces deux éléments qui sont propres à l'homme, Aristote découvre que le bonheur est quelque chose de trop intérieur pour être communautaire. Donc, le bonheur est personnel. Alors, le bonheur ne peut donc pas être une œuvre politique. Et c'est là qu'on voit la distinction éthique et politique. Bon. Alors, pour Aristote, l'État dispose au bonheur, tandis que pour Platon, on a vu que l'État rend heureux, donne le bonheur. Bon. Ce qu'on peut dire encore, juste pour voir ces deux points, c'est que l'éthique est ordonnée au bonheur et la politique est ordonnée au bien commun. Alors bon, je répète, il faudra se voir, se poser la question s'il y a un principe propre ou pas en philosophie politique, qu'on va voir avec la philosophie éthique. Voilà pour l'introduction.
Et maintenant, si on entre un petit peu dans le commentaire du texte, il semble que dans le livre 1, il y ait les deux premiers chapitres qui soient les plus importants. Enfin, disons, c'est le début, donc le début est toujours important. Et Aristote va essayer de connaître ce que c'est que la cité dans ces deux premiers chapitres, dans ses fondements, donc on va voir comment il fait ça. Et puis le reste du livre 1 est occupé par une étude sur l'esclavage, où Aristote semble un petit peu défendre l'esclavage. Et enfin, une étude de l'économie, hein, c'est-à-dire l'acquisition des richesses. Donc je crois que la première chose qui est importante à souligner avant de commenter, d'essayer de voir un petit peu plus précisément ce qu'il y a dans le texte, c'est de se rappeler que en faisant la politique, Aristote va chercher à savoir quel est le meilleur régime politique. C'est-à-dire que pour répondre à cette question, ça va tout de suite être lié à une finalité. Le meilleur en fonction de quoi ? Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans le livre 1, c'est que la politique est très liée à l'éthique. Et le livre 1, plus précisément, sera la connaissance des éléments de la vie politique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la cité. Alors si vous voulez, je vous lis les quelques premières lignes, parce que je crois qu'elles sont importantes, enfin, il faut les avoir, qu'on les lise. Et puis, on ne lira pas tout le texte, parce que ce serait beaucoup trop long. Donc après, on sera forcément un petit peu allusif, mais simplement lire de temps en temps un petit passage du texte, ça peut nous aider. Nous voyons que toute cité est une sorte de communauté. Alors, communauté, c'est plutôt mise en commun. Le terme grec, c'est koinonia. Alors ça, on va y revenir, parce que c'est un terme important. Et que toute koinonia est constituée en vue d'un certain bien, car c'est en vue d'obtenir ce qui leur apparaît comme un bien que tous les hommes accomplissent toujours leurs actes. Il en résulte clairement. Alors, résulte clairement, c'est il est évident, c'est délon, hein, c'est le terme grec. Que si toutes les communautés visent un bien déterminé, celle qui est la plus haute de toutes et englobe toutes les autres vise aussi plus que les autres un bien qui est le plus haut de tous. Cette communauté est celle qui est appelée cité, c'est la communauté politique. Donc on voit bien le point de départ, nous voyons, c'est-à-dire que c'est une constatation au niveau de l'expérience, donc il y a une expérience propre en philosophie politique. Et nous voyons, au niveau de l'expérience, que toute cité, c'est-à-dire que la police, la communauté parfaite, est constituée en vue, est une sorte de koinonia, c'est-à-dire une mise en commun. Donc ça nous montre quelle est l'expérience dont parle la politique, c'est une expérience de coopération. Hein, koinonia en grec, c'est le terme actif mis en commun, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout le résultat d'une communauté qui serait un peu un état fixe. Mise en commun, c'est l'expérience de la coopération, c'est-à-dire que tous coopèrent. Donc l'aspect d'expérience de coopération, qui est l'expérience propre de la philosophie politique. Donc ça peut fonder un peu une autonomie de la philosophie politique. Alors, il faudra voir jusqu'à quel point cette autonomie peut exister. C'est-à-dire qu'une expérience propre va fonder une partie propre de la philosophie. Donc l'éthique, c'est l'expérience du bien, enfin de l'amour, hein, et l'art, l'expérience artistique proprement dite, et puis l'inspiration et l'œuvre. Donc une expérience propre à chaque partie de la philosophie. Donc il semble, pour Aristote, que toute cité, c'est-à-dire toute communauté politique, est une koinonia, donc une expérience de coopération. Et nous voyons, c'est bien au niveau de l'expérience. Et que toute koinonia est en vue d'un certain bien. Donc le terme ici, c'est eneka. Donc on voit tout de suite que c'est l'éthique qui éclaire. Hein, la finalité est présente. C'est-à-dire que l'expérience de la coopération politique, très bien, Et cette expérience de la coopération, elle est en vue de quelque chose, et en vue d'un bien. Donc qu'est-ce que c'est que ce bien? Est-ce que c'est pas ce qu'on appelle le bien commun, qu'Aristote ne nomme pas explicitement? Donc un bien propre à la politique, vers quoi on tend? C'est une expérience. Donc l'éthique est claire, c'est la finalité qui illumine la communauté politique. Donc vous voyez, je crois que c'est important parce que ça nous montre tout de suite le lien entre éthique et politique. C'est qu'ici, il n'y a pas une redécouverte de la finalité, mais qu'on utilise la finalité qui est déjà découverte en éthique. Et cette finalité va éclairer la réalité politique. Donc ça nous montre les liens indissolubles entre éthique et politique. Et donc, il semble que la politique ne soit possible qu'à partir d'une découverte de la finalité. Donc les liens entre la politique et l'éthique personnelle. Cette finalité, je la découvre dans l'éthique personnelle, et elle illumine la réalité politique. Et ce qui nous le montre, bon, car cette envie d'obtenir ce qu'il apparaît comme un bien, que tous les hommes accomplissent toujours leurs actes, donc ça c'est réutiliser ce qui a été découvert dans l'éthique, ce qui nous le montre, c'est que c'est le terme « il est évident, délon », parce que c'est le terme qu'emploie Aristote pour dire que c'est un principe qui illumine la réalité. Donc il semble qu'il y a un principe qui soit réutilisé sans être découvert. Donc lien de la finalité qui vient éclairer la réalité politique. Et puis ensuite, ce que nous montre Aristote, c'est que la cité, c'est la communauté parfaite. Alors il semble que ce soit un certain a priori, pourquoi la cité serait la communauté parfaite, après tout. Rien ne nous le dit dans ce que nous a dit Aristote avant. Donc on pourrait presque se dire que le livre 1 va consister à savoir pourquoi la cité est communauté parfaite, ce qu'Aristote affirme au début, à la fin de ses lignes. Cette communauté est celle qui est appelée cité, donc c'est la communauté qui vise un bien qui est le plus haut de tous, la communauté qui est au sommet de toutes les autres communautés, donc qui va un petit peu les finaliser, c'est la cité. Pourquoi ça? Donc c'est la question à laquelle Aristote va essayer de répondre. Pourquoi est-ce que la cité est communauté parfaite? Bon, et puis tout de suite, Aristote montre que pour savoir pourquoi la cité est communauté parfaite, donc pour connaître la cité par rapport aux autres communautés, il y a une erreur qui a évité, c'est de faire la distinction uniquement par le nombre. Ce serait de dire, eh bien, la famille, il y a 10 personnes, le village, il y a 100 personnes, la cité, il y a 1000 personnes, c'est uniquement comme ça que je vais diviser les communautés. Pas du tout. Pour Aristote, il faut qu'il y ait une différence spécifique entre les communautés. Donc, il va consister à savoir quel est le caractère spécifique de chaque communauté. Et à partir du moment où j'aurai découvert ça, Aristote va nous montrer que la cité touchant la finalité, elle est la plus parfaite. Mais ensuite, Aristote fait un petit peu quelques questions de méthode pour finir ce chapitre 1. Le premier point, c'est la finalité qu'il faut retenir. L'ordre de perfection tout de suite qui illumine la réalité politique. Donc, il faudra se demander dans les questions, est-ce qu'un homme qui vit dans une communauté politique peut en être responsable s'il n'a pas une expérience personnelle? C'est une question qui nous montre, au point de vue pratique, les liens entre éthique et politique. Donc, premier point de méthode, la méthode entre guillemets, c'est-à-dire que la finalité est essentielle à la vie politique. Deuxième point qu'on voit un peu après la ligne 15, là dans la traduction, on s'apercevra clairement de la méprise, donc après ces erreurs qu'il faut éviter, c'est-à-dire distinguer les communautés uniquement par le conditionnement du nombre. Il va y avoir une autre question de méthode, c'est que la communauté politique étant un tout, c'est quelque chose de complexe, je vais la connaître par ses parties. Puisque je connais un tout par les parties. Donc la communauté étant un tout, il va falloir savoir quelles sont les parties de ce tout. Et donc essayer de connaître la réalité politique, la communauté, par ses éléments. Et ça c'est un point important aussi d'Aristote par rapport à Platon, parce que pour Platon, le fondement de la cité c'est l'individu. Quel est le fondement de la cité pour Aristote? Est-ce que c'est l'individu ou est-ce que c'est autre chose? Donc les spécifications... On va essayer de connaître quel est l'élément de la communauté politique. Bon, Aristote répondra que c'est l'oikia, c'est-à-dire la famille. Donc, premier point de méthode, la finalité. Deuxième point, division du tout par les parties, parce que la communauté est quelque chose de complexe. Et troisième point de méthode, si vous voulez, on peut dire que le premier chapitre j'irai jusqu'au début du chapitre 2, c'est-à-dire les lignes 25. Là. Troisième point de méthode, c'est un point de vue génétique. C'est que je vais chercher à connaître quelle est l'origine de la cité, la genèse de la cité. dans ces conditions, si on considérait les choses à partir de leur origine, dans leur développement naturel, nos investigations apparaîtraient sous l'angle le plus favorable. Donc trois points de méthode en politique. Puisque c'est une réalité complexe, j'ai une méthode qui est complexe. Aristote connaît par la finalité, et ça ne suffit pas en politique. En éthique, la finalité suffit. En politique, il faut une deuxième chose, c'est qu'étant une réalité complexe, il faut que je connaisse par les partis. Et troisième point, c'est une question d'un ordre génétique, la genèse de la cité, d'où ça vient que l'homme vive en communauté. Donc on pourrait dire que le chapitre 2 va essayer de connaître qu'est-ce que c'est que la genèse de la cité. Donc, tout d'abord, quelle est la genèse de la cité ? C'est-à-dire que je vais connaître une chose par sa finalité et par son fondement. Donc quelle va être la finalité de la cité ? Ça, on verra ça après. Et quel est le fondement ? C'est le premier point sur lequel Aristote va s'interroger. Et donc il va y avoir une étude de la famille qui est très rapide, enfin très... qui est assez, en somme, assez simple. Il y a deux relations qui font de la famille, c'est ce qu'Aristote montre. On va essayer de voir ça un petit peu après. Bon, et puis Aristote va diviser les différentes communautés, on pourrait dire, en trois types. L'oïkia, le village et la cité. L'oïkia, communauté fondamentale, le village, communauté intermédiaire, la cité, communauté ultime. Et pour arriver à bien les distinguer, il faut arriver, puisque Aristote cherche une différence spécifique, puisque le conditionnement ne suffit pas, il faut donc une différence d'aïdos, une différence de forme. Donc une différence qui va se trouver du côté de la finalité et du côté du fondement. Donc quelle va être la finalité de la famille ? Quel va être le fondement de la famille ? Quelle va être la finalité de la cité ? Quel va être le fondement de la cité ? C'est un petit peu dans ces axes-là. Pour essayer de donner un caractère spécifique à chaque communauté, il faut que je vois quelle est sa finalité, quelle est la finalité de chaque communauté, quel est son fondement. Donc ça pour un petit peu des questions de méthode. Donc ensuite, Aristote entre un petit peu plus dans le vif du sujet, c'est-à-dire quel est le fondement de la communauté politique parfaite, la polis, la cité. Eh bien, pour Aristote, c'est l'oïkia, c'est-à-dire la famille. Et elle est fondée sur deux relations fondamentales, sur deux relations qui sont irréductibles les unes par rapport aux autres. C'est quelque chose qui est important à souligner, parce qu'Aristote le souligne lui-même. On pourra voir un petit peu le texte. La relation la plus fondamentale de l'oïkia, et c'est quelque chose qui est imposé par la nature, c'est la relation entre l'homme et la femme, mais vue du côté du fondement naturel. C'est-à-dire que l'homme a un appétit naturel de s'unir à une femme pour avoir des enfants. C'est donc simplement vu du point de vue naturel, c'est l'appétit naturel que l'homme a de laisser quelqu'un derrière soi. Et c'est ça qui fonde la famille du point de vue politique. Et rien d'autre pour Aristote. Il dit texto, cette union n'a rien à voir avec la proie hiérésis, donc ce n'est pas une relation d'amitié, l'homme et la femme, pas du point de vue politique. C'est quelque chose d'imposé par la nature comme dans les espèces animales. Donc l'homme, on voit ce qui fonde du point de vue le plus radical, la famille. Et donc on voit toujours bien le souci d'Aristote d'enraciner ses études dans la nature. Comme pour le livre 8 de l'éthique, enraciner l'étude de l'amitié dans la nature, ici même chose, essayer de montrer en quoi la réalité politique est enracinée dans la nature de l'homme. Et ça, du point de vue le plus fondamental, c'est cet appétit naturel que l'homme a d'avoir des enfants. C'est un désir naturel, to fusikon et fiestai. C'est donc vu du côté de la genesis. La deuxième relation, c'est donc on pourrait dire que c'est un petit peu en lien avec l'instinct de procréation, dans des termes peut-être plus modernes. Et la deuxième relation, ça va être l'instinct de conservation. C'est la relation maître-esclave. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la famille, il va y avoir une coopération entre le maître et l'esclave pour subvenir aux besoins de chaque jour. Donc la vie et puis la conservation de la vie. Ces deux éléments-là font de la famille pour Aristote. Et elles sont irréductibles ces deux relations sont irréductibles les uns aux autres. Et bien ce qu'il dit, il n'y a rien de commun entre la femme et l'esclave. Ce n'est pas du tout la même relation. L'homme par rapport à la femme, ce n'est pas du tout la même relation que l'homme par rapport à l'esclave. L'une est du côté de la génésis, et l'autre c'est du côté du salut. Et dans la relation maître-esclave, le maître et l'esclave ont même intérêt. Ce même intérêt, c'est la conservation de tous. Et ça fait intervenir l'intelligence. La distinction entre le maître et l'esclave, c'est par l'intelligence. Chacun apporte ses capacités pour qu'on puisse manger tous les jours dans la famille. C'est à peu près ça, dans son fondement, la relation maître-esclave. Donc on voit bien les deux relations qui fondent la famille. Ça, c'est le point de vue très enraciné de l'étude politique. Alors ensuite, Aristote passe très rapidement sur une étude intermédiaire, sur l'étude de la communauté intermédiaire qu'il appelle le village. Alors, village, c'est pas très bien traduit, c'est le terme grec, c'est ethnos. Hein. On voit que c'est ethnie, c'est le lien racial, le lien familial. Donc c'est un petit peu, si vous voulez, là, dans le prolongement de la famille. Hein. Il dit c'est parce que c'est la satisfaction des besoins un peu plus nécessaires que ceux de tous les jours. Donc c'est peut-être un peu, c'est les hommes se réunissent pour se défendre, hein, c'est un lien racial et familial. Mais ça, c'est quelque chose de très intermédiaire, Aristote ne s'y arrête pas. Et il pourrait y avoir différentes sortes de communautés intermédiaires, c'est pas ça qui l'intéresse. Donc c'est un petit peu une extension quantitative, un peu du côté du conditionnement. Et puis enfin, il arrive à la cité, communauté parfaite. Alors si vous voulez, je peux peut-être vous dire maintenant, on pourrait peut-être faire une analogie, ce serait peut-être intéressant de se demander, avec les trois degrés de vie. La famille du côté de la vie végétative, le village du côté de la vie sensible, qui n'a justement pas de finalité propre, et puis la cité du côté de la vie spirituelle. Ça touche la finalité. C'est peut-être un... Donc ça peut peut-être éclairer les distinctions entre ces trois communautés. Mais il faut faire attention que c'est vraiment des types de communautés, entre guillemets. Bon, il y a quelque chose, il y a une communauté fondamentale, c'est la famille, une communauté ultime, c'est la cité, et entre les deux, il peut y avoir des tas d'autres communautés intermédiaires. Mais Aristote les réunit sous un terme qu'il appelle ethnos. Donc on voit que ça ne l'intéresse pas, il est à la recherche d'un principe. Donc c'est le fondement et la finalité, donc c'est pas l'intermédiaire qui l'intéresse. Donc ensuite, une étude de la cité. Enfin, la communauté formée de plusieurs villages, la cité au sens plein du mot. Alors c'est Téléia, la cité qui atteint le Télos. Elle atteint dès lors, pour ainsi parler, à la limite de l'autarkeia. Ainsi, formée au début pour satisfaire les seuls besoins vitaux, donc pour le vivre. On a vu que la famille c'était pour le vivre, pour vivre chaque jour. Elle existe pour permettre le bien vivre. Donc ça, je crois que c'est le point premier à souligner dans la cité, c'est que la cité est parfaite. Et pourquoi est-elle parfaite? Parce qu'elle a l'autarkeia. Alors c'est quelque chose qui est assez difficile à préciser. Qu'est-ce que c'est que l'autarkeia pour Aristote? C'est pas du tout l'autarcie économique, c'est beaucoup plus que ça. La cité, c'est ce qui va assurer à chacun tout ce dont il a besoin pour réaliser son épanouissement personnel. Et on peut voir là un petit peu les liens avec, vous voyez, le bien commun. Hein, il y a un bien de la cité, et chacun, ce bien est mis à la disposition de tous et de chacun, pour que chacun puisse développer un peu sa vie personnelle. Donc c'est pas du tout un niveau économique, c'est beaucoup plus que ça. Hein, on voit tout le lien avec l'éducation, par exemple, il faut un milieu, c'est la culture, c'est tout ça, c'est tout un milieu politique dans lequel chacun va pouvoir se développer personnellement. Bien, la cité possédant l'autarkeia, elle est parfaite. C'est ça qui donne le caractère de perfection. Et pourquoi ça donne le caractère de perfection? Parce que c'est en vue d'assurer le bien-vivre. La vie politique assure le bien-vivre, la vie personnelle assure le bonheur. Deux notions qui ne sont pas du tout les mêmes, le bonheur personnel et le bien-vivre politique, qui n'est pas un bien-vivre économique, c'est un bien-vivre. C'est ce qui va permettre à chacun, le to-e-zen, à chacun d'être dans un milieu favorable à son épanouissement personnel, donc d'atteindre sa fin. Donc les liens éthiques et politiques ils peuvent se comprendre à ce point, dans cet endroit-là, d'une manière très, très spéciale. Donc le rôle de la cité, c'est une disposition vers le bonheur personnel. L'autarkeia est pour le bien-vivre. La cité a l'autarkeia pour assurer le bien-vivre. Et ce bien-vivre est une disposition vers le bonheur. Donc le bonheur n'est absolument pas communautaire. Quand Aristote dit bien vivre, c'est absolument pas le bonheur. C'est tout à fait différent. Et ceci fait que la cité, c'est ce qu'Aristote dit ici, en outre, la cause finale, la fin d'une chose est son bien le meilleur, et la pleine autarkeia est à la fois une fin et un bien par excellence. Ayant l'autarkeia étant cité parfaite, la cité va finaliser les autres communautés. Donc il va y avoir, c'est peut-être ici qu'on pourrait voir les liens entre famille et cité. Et alors les termes grecs sont importants. Du fait qu'elle a l'autarkeia, la cité est to ou eneka, elle est telos et elle est beltiston. C'est les trois choses qu'on voit en éthique. Donc le caractère, la cité étant parfaite, elle a ces trois caractères-là. Touneka, c'est ce en vue de quoi, l'exercice de du principe de finalité. Le telos, c'est la fin, c'est-à-dire le bien le meilleur, le bien en vue de quoi j'oriente les autres. Donc la cité, c'est il va y avoir un bien commun qui va essayer. Est-ce que c'est pas en ce sens-là que la politique est science architectonique, c'est-à-dire que le bien commun va orienter toutes les autres activités de la cité. Et puis le Beltiston, elle est un bien désirable. Il y a un bien désirable en politique. Donc la cité finalise les autres communautés. C'est en ce sens-là qu'on pourrait dire que la famille va donner la vie et la cité va donner l'épanouissement. Donc les liens entre famille et cité, est-ce qu'il n'y a pas un lien indissoluble? Deuxièmement, la cité est fusaille. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui existe par nature, ce n'est pas une convention. Vivre en communauté n'est pas une convention, ça répond à quelque chose de la nature de l'homme. Par son fondement, parce que naturellement l'homme vit en famille, donc c'est déjà une communauté, mais la cité donnant l'achèvement de la famille, la cité par le fait même naturel. Et puis deuxièmement, puisque la cité touche la finalité, puisqu'elle va être une disposition vers le bonheur personnel, elle est doublement naturelle. Donc on avait vu, il y a un caractère naturel de la famille, c'est son enracinement dans, on pourrait dire, les deux instincts de procréation et de conservation. Donc puisque la cité est liée à la famille, il y a déjà un enracinement naturel de la cité par la famille. Et puis deuxièmement, puisque la cité touche la finalité, puisqu'elle est une disposition vers le bonheur personnel, par le bien-vivre, ayant l'autarkeia, elle est doublement naturelle. Mais Aristote se pose ensuite la question de savoir, très bien, donc je vois, ce serait peut-être un peu une analyse de la cité par la cause finale. Quelle est la finalité de la cité, le lien entre la cité et la finalité? Ensuite, Aristote va se poser la question, après avoir vu que c'est quelque chose qui est donc naturel, et c'est là qu'on voit que l'homme est par nature un animal politique. C'est pas un a priori, c'est une conclusion. Il y a une expérience de départ, c'est que l'homme vit en communauté, et quand j'ai cette expérience, je me rends compte que c'est quelque chose qui est une exigence naturelle. Donc l'homme est naturellement politique. Donc c'est pas du tout un a priori, quand on dit comme un a priori l'homme est par nature un animal politique, c'est une conclusion d'Aristote, il la reprend ensuite. Et donc il va s'interroger, mais pourquoi l'homme vit en communauté? Alors c'est peut-être là la cause formelle de la cité. Qu'est-ce qui caractérise la cité? Eh bien c'est que l'homme se vit en cité, non pas comme les abeilles vivent à l'état grégaire, c'est-à-dire vivent une certaine communauté, ça ce serait uniquement un instinct, mais c'est parce que l'homme possède le logos. Donc c'est l'intelligence de l'homme qui répond à la question de savoir pourquoi l'homme vit en communauté. Et c'est peut-être par là que Aristote assume Platon. Parce que pour Platon, c'est le logos lui permet de saisir la justice. Donc par là, Aristote, montrant que l'homme a le logos et vit en communauté, va être capable de discerner ce qui est juste et ce qui est injuste. Et la cité, ce sera la koinonia, la mise en commun de ce qui est juste et injuste, de ce qui est bien et mal, de ce qui est nuisible et utile. Donc des aspects qui vont fonder la cité et qui sont mis dans ce fait que l'homme ayant le logos, c'est-à-dire ayant l'intelligence, est capable de discerner ce qui est juste et injuste. Et il va mettre ça en commun à l'intérieur de la cité. Donc on voit un petit peu un genre de... pour essayer de connaître quel est l'aspect formel de la cité. C'est la justice qui va donner la forme de la cité. Plus la justice est grande, plus la communauté sera parfaite, plus la cité sera parfaite. Il y aura un dépassement de la justice par la concordia, qui sera le bien commun pour Aristote, c'est-à-dire une bonne entente des citoyens, mais ce qui donne la forme, c'est la justice. C'est-à-dire qu'il y aura un besoin de justice pour que la concordia se réalise. Sans justice, la concordia ne peut pas exister. Donc c'est un peu cet aspect-là. Et l'aspect fusaille, pour Aristote, l'aspect naturel de la cité jaillit donc du logos, du fait que l'homme a le logos. Et ce qui nous permet de dire, donc, un autre point, que la cité a une antériorité par rapport aux autres communautés. C'est-à-dire qu'il va y avoir un développement sui generis de l'homme dans la cité. C'est que l'homme va trouver son plein développement d'animal politique dans la cité, et non pas dans la famille. Et c'est en ce sens-là que la cité est antérieure aux autres communautés. Parce qu'elle va être ce qui va permettre puisqu'elle finalise les autres communautés, elle leur est antérieure. La famille va être d'une certaine manière orientée vers la cité, mais le rôle de la cité, ça va être de permettre que la famille aille jusqu'au bout de ses exigences. Donc on voit les liens entre famille et cité. peut-être pas très très clair, mais c'est assez dense. Et donc, ceci permet de voir que tous les hommes, il va y avoir une impulsion de tous les hommes à se mettre à vivre en cité, à vivre en communauté. Et c'est ce qu'il dit là. L'homme qui est dans l'incapacité d'être membre d'une communauté, qui n'en éprouve nullement le besoin parce qu'il se suffit à lui-même, ne fait en rien partie d'une cité, et par conséquent est ou une brute ou un dieu. Donc il y a un besoin de l'homme de vivre en communauté. Et s'il ne vit pas en communauté, c'est ou bien parce qu'il n'en est pas capable, c'est-à-dire qu'il est incapable d'être responsable d'un bien quelconque, donc il est une brute, il est incapable d'avoir de vivre en commun avec d'autres, c'est-à-dire d'être porteur d'un bien commun. Et puis, au contraire, il y a un dépassement qui montre que la finalité de l'homme ne se trouve pas dans la communauté. Alors là, le dépassement, et c'est quelque chose de tout à fait autre, il est un dieu, c'est-à-dire que c'est le contemplatif qui est en dehors de la cité par excellence. Alors, il faut bien voir les... Et le signe de cela, donc, c'est que les hommes qui ne vivent pas en communauté parce qu'ils n'en sont pas capables peuvent amener l'injustice armée. Et donc l'injustice armée, qui est la corruption de la cité, la révolution, quoi, va être le signe que l'homme vit naturellement en communauté. Donc c'est au niveau de la vie morale, comme un milieu par rapport à l'éthique. Mais il y a un dépassement de la cité par celui qui atteint sa finalité. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur la cité de manière un petit peu générale. On va essayer de maintenant traiter un petit peu l'esclavage.
Alors pour le reste du livre, c'est-à-dire du chapitre 3 au chapitre 13, on va être beaucoup plus allusif. La partie la plus importante, c'était celle-là, sur la cité. Cependant, c'est assez dense. Alors, on a essayé de ponctuer le mieux possible le texte. Alors, tout d'abord, le chapitre 3. Le chapitre 3 fait une transition. Alors, la transition, c'est que la cité, on a vu, je la connais par ses éléments. Alors, on va commencer à étudier la famille. D'autre part, Aristote va regarder ce qu'on appelle l'oikonomia. Alors, qu'est-ce que c'est que l'oikonomia ? C'est pas l'économie telle qu'on l'entend actuellement, mais c'est le gouvernement de la maison. C'est important, hein, le gouvernement de la maison, parce qu'on va en parler tout le long de l'oikonomia. Alors, ce gouvernement de la maison va impliquer justement trois relations. La relation maître-esclave, la relation mari-épouse, époux-épouse, et puis la relation père-enfant. Un autre problème que Aristote traitera, c'est l'art d'acquérir la richesse, parce que la famille est en vue du vivre. Alors là, vous avez le plan, dans le chapitre 3, de toute la fin du livre. Alors, Aristote dit qu'il commence à étudier la relation maître-esclave. Pourquoi ? Parce que ça regarde les besoins indispensables pour l'existence. Toujours cette nécessité d'un fondement. Hein. D'autre part, Aristote veut donner une théorie de l'esclavage plus vraie que celle qu'il y a de son temps. Et il se posera le problème, est-ce que l'esclavage est naturel ou ne l'est pas ? Alors, le chapitre 4, on rentre dans le problème de l'esclavage, la nature de l'esclavage. Alors je vous lis la fin du chapitre 4 parce que Aristote donne la définition. Alors, ces considérations montrent clairement quelle est la nature de l'esclave, phusis, et quelle est sa dynamis, sa capacité, sa potentialité. Pour la traduction pas bonne. Alors, sa dynamis plutôt. Le mot grec est clair. Celui qui par nature ne s'appartient pas à lui-même, tout en étant un homme, mais totalement de l'autre. Celui-là est esclave par nature. Alors, je vais y revenir. Hein. Et est la chose d'un autre, tout homme qui, malgré sa qualité d'homme, est une propriété n'étant rien d'autre qu'un instrument d'action et séparé du propriétaire. Alors, on a là la définition de l'esclave. Alors, je vous l'explique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est la clé, quoi, un peu le mot, c'est la théma. La théma, c'est-à-dire le bien qui m'appartient. Ce que je possède, c'est ce qu'on appelle la théma. Alors, Aristote va donner la définition de l'esclave à partir de l'akthéma. Il donne deux aspects de l'akthéma qui vont me permettre de comprendre les deux aspects de l'esclave. Vous voyez bien comment ça se ponctue. Hein. Alors, cet thème a deux aspects. C'est une relation de la partie par rapport au tout et une capacité, c'est l'instrument d'action. Alors, la définition de l'esclave, Aristote nous la présente comme ça. Par nature, l'esclave est totalement de l'autre parce qu'il est parti. Et il est parti parce qu'il est théma. Mais si vous voulez, étant donné qu'il est théma, il est parti. Ça, c'est la définition d'Aristote. Alors, l'autre aspect, c'est la dynamis. L'esclave est instrument d'action, c'est organon practicon. Alors, il est instrument d'action parce qu'il est théma. Ça, c'est la définition d'Aristote. Alors, pour nous, on va se poser le problème de laisser tomber le point de vue de l'akthéma pour comprendre qu'à travers les considérations d'Aristote, il y a une étude de l'expérience de la coopération. Alors c'est ça qui est délicat dans l'étude de l'esclavage d'Aristote, c'est qu'il mêle en même temps ce qui est proprement du conditionnement de son temps et quelque chose qu'on peut trouver, quelque chose de philosophique. Alors c'est ce qu'on va essayer de discerner là. Alors le point de vue de l'akthéma, je le laisse tomber, parce qu'il semble que ça soit proprement le conditionnement, et qu'Aristote n'a pas critiqué. Pour lui, c'est un fait, et il part de là pour donner sa définition. Bon, alors, si on voudrait trouver les principes d'une philosophie de la coopération, à travers les considérations d'Aristote, on prendrait l'étude à partir de l'organon, l'instrument. Alors, je m'explique. Tout d'abord, Aristote, au chapitre 4, commence par cette proposition. Le maître, dans son gouvernement de la maison, oikonomia, doit subvenir aux nécessités du vivre. Donc il y a une finalité. Il a une tâche à accomplir dans le gouvernement de la maison. Pour cela, deuxième point, il a besoin d'instruments. Et Aristote donne une analogie. Il a besoin d'instruments comme l'artisan a besoin d'instruments pour l'accomplissement de l'œuvre qu'il se propose. Donc Aristote fonde la nécessité d'instruments pour le maître de maison qui doit gouverner sa maison. Ensuite, Aristote fait une distinction. Parmi ces instruments, il y en a qui sont animés et inanimés. Pour cela, il prend l'exemple d'un bateau où il y a le pilote qui correspond au maître de maison, il y a le vigie qui est un instrument animé et la barre qui est un instrument inanimé. Alors comprenons bien les mots, il ne faut pas se buter dessus. C'est que quand on parle d'instrument, Aristote nous dit dans les divers métiers, celui qui aide, c'est le luporétès, rentre dans le genre instrument. Le fait d'aider, on rentre dans le genre d'instrument. Donc il ne faut pas se bloquer au niveau des mots. Il faut comprendre ce qu'on veut dire par instrument. Alors, Aristote souligne aussi que du fait même que celui qui aide est instrument et qu'il est animé, il est organon pro-organon, c'est-à-dire qu'il est le serviteur avant les... Il est instrument avant les instruments. Bon, ensuite, il y a un deuxième aspect de l'instrument qui est très important à bien souligner, c'est la division entre organon practica et organon poietica, c'est-à-dire instrument d'action et instrument de production. Alors ça c'est important, hein, il faut essayer de suivre. L'esclave, étant donné qu'il est en vue du vivre, il est instrument d'action et non pas de production. On va y revenir. L'esclave est instrument d'action parce qu'il est en vue du vivre, et Aristote dit lui-même, or la vie est praxis. Donc, on arrive à cette conclusion, le serviteur, l'esclave, est organon d'action, instrument d'action. Alors, par cette petite démarche, on peut voir que l'esclave ou le serviteur, pour Aristote, n'est pas finalisé par la production avant tout, mais il est là pour atteindre avec le maître la finalité propre de la famille qu'est le vivre. Ils ont donc une même œuvre commune. Et c'est important parce qu'on verra qu'avec Hegel, il va y avoir une opposition dialectique entre maître et esclave, mais pas du tout pour Aristote, parce qu'ils font la même œuvre, et quoi, ils sont finalisés les deux par la même œuvre, il y a instrument d'action. Alors, c'est important aussi par rapport à l'exemple, le pilote, le vigie et la barre. Aristote prend cet exemple parce que c'est le cas le plus frappant où on doit sauver sa vie dans une tempête. Celui qui aide, c'est-à-dire le vigie, demande qu'une chose, c'est au pilote de savoir commander, et lui, il obéit. Il y a une coopération en vue de la survie. Et là, on ne se demande pas si c'est moi qui commande ou c'est l'autre. On est chacun à sa place. Eh bien, pour Aristote, c'est la même chose dans la coopération, dans la relation maître-esclave. Bon. Alors, on déduit de tout ça que si la coopération est praxis, cela exige du fait même que le serviteur soit libre. Parce qu'on a vu que la praxis, c'est volontaire. Et donc, conclusion, les arguments d'Aristote, poussés jusqu'au bout de leur exigence, vont à l'encontre de la définition qu'il a donnée de l'esclave par l'Arctéma. Il n'est pas possible que l'esclave soit partie du tout, tel que le dit Aristote, à cause même de sa capacité instrument d'action. Et c'est là qu'il y a, quelque chose qui ne va pas dans tout ce que dit Aristote. Alors, le chapitre 5, existe-t-il ou non par nature des êtres ainsi faits? Et c'est là qu'on va voir comment ça se magouille. C'est que Aristote donne tout d'abord comme des principes philosophiques de toute coopération à partir des faits. C'est le to archein et le to archestai. C'est le fait. Celui qui est principe et l'autre qui est principier, c'est le fait de commander, le fait d'être commandé. Le to archein et le to archestai est toujours en vue d'un entikoinon, c'est-à-dire toujours en vue d'une œuvre commune. Les deux sont parfaitement liés. Bon, je ne lis pas le passage, j'aurais voulu le faire, mais Aristote dit qu'on retrouve cet ordre dans la nature. Donc ces deux principes, to archein et to archestai, et entikoinon, œuvre commune, se retrouve dans la nature physique même. C'est important pour nous de savoir qu'il y a un enracinement dans la nature. Alors tout ça, ça nous fonde la possibilité de l'obéissance pour un homme. Toute la philosophie politique reposera sur cette possibilité de coopération, un qui obéit, un qui n'obéit pas. Quoi, qui commande. Bon, alors Aristote, pour fonder le point de vue théma partie tout, va donner trois analogies qui, en tant que telles, si on regarde la réalité, ne portent pas avec tout ce qu'on vient de dire, mais si on regarde que la notion théma comme partie, elle porte. Ça, je vous dis pour vous, j'ai pas le temps qu'on ne peut pas s'y arrêter trop. Mais c'est intéressant de voir que trois analogies, elles portent d'une certaine manière et ne portent pas en réalité. Bon. Et Aristote dit lui-même que ces analogies portent quand on retrouve que l'homme, alors quand les hommes sont entre eux comme l'âme par rapport au corps, alors il convient que l'un appartienne totalement à l'autre. Mais de fait, on ne retrouve jamais dans la réalité un homme qui soit comme le corps par rapport à l'âme. Donc un homme par rapport à un autre homme qui soit comme le corps par rapport à l'âme. Bon, alors je passe tout de suite à la dernière partie. Bon, ça va être moins compliqué, c'est plus facile. C'est le chapitre 8 au chapitre 11, c'est l'art d'acquérir les richesses. Alors, on voit, je souligne que c'est un art. Donc, au niveau de la famille, parce qu'en vue du vivre. Donc, la famille n'est pas seulement une communauté éthique, mais elle est aussi, il y a une dimension du facere, une dimension de richesse parce qu'il faut vivre. Alors, Aristote distingue trois choses dans cet art d'acquisition. Tout d'abord, un art naturel. Alors, je ponctue hein, aussi, là. On va essayer. Alors, cet art naturel consiste à acquérir ce qui est nécessaire pour répondre aux besoins naturels de l'homme, c'est-à-dire se nourrir et puis se vêtir. Tous les besoins naturels d'une première nécessité de l'homme. Et donc, l'art naturel, c'est acquérir ces richesses dont j'ai besoin. Il y a donc par là une finalité, deuxième point à bien noter, parce que ça impose par le fait même, puisque c'est finalisé, une limite à la richesse. Parce que nos besoins, on n'en a pas en quantité infinie. Alors, à partir de là, Aristote nous donne un regard sur l'homme comme fin de l'univers. Ça, c'est dans le livre. On voit que toute la nature est ordonnée à subvenir à ses besoins de l'homme. La terre nous donne, quand on la cultive, il y a les fruits, etc. Même les animaux. Ensuite, deuxièmement, c'est l'apparition du commerce. C'est le deuxième point avec art naturel. Apparition du commerce. Intéressant à noter, c'est que c'est à cause du conditionnement. C'est le point de vue du conditionnement qui apparaît. Parce qu'il reste fini.